Deuxième partie. Les jeux du diable. Chapitre 1. Les témoins. Toute jeunette, et pas plus grosse encore que le pouce, une poire pendait hors de l'espalier. Sur le banc de pierre, trois personnages étaient assis. Le vieux comte de Bouville au centre, qu'on interrogeait, et à sa droite, le chevalier de Villebrême, commissaire du roi, et de l'autre côté, le notaire Pierre Tesson, qui prenait la déposition par écrit. Le notaire Tesson portait bonnet de clerc sur un énorme crâne en dôme, d'où tombaient des cheveux plats. Il avait le nez pointu, le menton exagérément long et effilé, et son profil faisait penser au premier quartier de la Lune.
« Monseigneur, dit-il avec grand respect, puis-je à présent vous lire votre témoignage ?»«
Faites, messire, faites, répondit Bouville. »
Et sa main se dirigea, tâtonnante, vers le petit fruit vert dont il éprouva la dureté.
« Le jardinier aurait dû veiller à rattacher la branche,
pensa-t-il. Le notaire se pencha vers l'écritoire posé sur ses genoux et commença.
Le 17e jour du mois de juin de l'an 1329, nous, Pierre de Villebrême, chevalier...
Le roi Philippe VI n'avait pas laissé les choses traîner. Deux jours après l'esclandre d'Amiens et les serments prononcés dans la cathédrale, il avait nommé une commission pour instruire l'affaire. Et moins d'une semaine après le retour de la cour à Paris, l'enquête était déjà commencée.
Et nous, Pierre Tesson, notaire du roi, sommes venus ouïr...
Maître Tesson, dit Bouville. Êtes-vous le même Tesson qui se trouvait précédemment attaché à l'hôtel de Monseigneur Robert d'Artois?
Le même, Monseigneur.
Et à présent, vous voici notaire du roi. Fort bien, je vous en complimente.
Bouville se redressa un peu, croisa les mains par-dessus son ventre rond. Il était vêtu d'une vieille robe de velours, trop longue et démodée, comme on en portait au temps de Philippe le Bel, et qui l'usait dans son jardin. Il se tournait les pouces trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. La journée serait belle et chaude, mais la matinée gardait encore quelques traces des fraîcheurs de la nuit.
« Sommes venus ouïr, ô et puissant seigneur, le comte Hugues de Bouville, et l'avons entendu en le verger de son hôtel, si non loin le pré au clair.
Comme le voisinage a changé depuis que mon père a fait construire cette demeure, dit Bouville. En ce temps-là, depuis l'abbaye Saint-Germain-des-Prés jusqu'à Saint-André-des-Arts, il n'y avait guère que trois hôtels. Celui de Nesle, sur le bord de la rivière, celui de Navarre, en retrait, et le second séjour des comtes d'Artois, qui leur servait de campagne. Car autour, ce n'était encore que prés et champs. Et voyez à présent comme tout s'est bâti. Toutes les fortunes neuves ont voulu s'établir de ce côté. Les chemins sont devenus rues. Jadis, par-dessus mon mur, je ne voyais que des herbages, et maintenant, par le peu de lumière que mes yeux ont encore, je n'aperçois que des toits. Et le bruit qui se fait dans ce quartier, on se croirait tout juste au cœur de la cité. Si j'avais encore un peu d'âge devant moi, je vendrais cette maison et ferais bâtir ailleurs. Mais en est-il seulement question ?
Et sa main s'éleva de nouveau, hésitante, vers la petite poire verte au-dessus de lui. Attendre la maturité d'un fruit, c'était bien tout le temps d'espérance auquel il osait encore prétendre, et le plus long projet qu'il s'autorisa. Il perdait la vue depuis de nombreux mois déjà. Le monde, les êtres, les arbres, ne lui apparaissaient plus que comme au travers d'un mur d'eau. On a été actif et important, on a voyagé, siégé aux conseils royaux et participé à de grands événements, et l'on finit dans son jardin, la pensée ralentie et la vue brouillée, seule et presque oubliée, sauf lorsque les gens plus jeunes ont à faire appel à vos souvenirs. Maître Pierre Tesson et le chevalier de Villebrême échangèrent un regard de lassitude. Ah, ce n'était pas un témoin aisé que le vieux comte de Bouville, dont le propos s'égarait sans cesse sur des banalités vagues. Or, il était homme trop noble et trop vieux pour qu'on pût le brusquer. Le notaire reprit.
« Lequel nous a déclaré, de sa voix, les choses ci après écrites, à savoir, que lorsqu'il était chambellan de notre sire Philippe le Bel avant que celui-ci ne devînt roi, il eut connaissance du traité de mariage conclu entre feu Monseigneur Philippe d'Artois et Madame Blanche de Bretagne, et qu'il eut ledit traité entre les mains, et qu'audit traité il était précisément inscrit que le comté d'Artois irait par droit d'héritage audit Monseigneur Philippe d'Artois, et après lui à ses oires mâles issus dudit mariage.
Bouville agita la main. Je n'ai point assuré cela. J'ai eu le traité en main, comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai indiqué à Monseigneur Robert d'Artois lui-même, quand il m'est venu visiter l'autre jour, mais je n'ai point souvenance, en toute conscience, de l'avoir lu.
Et pourquoi, Monseigneur, auriez-vous tenu ce traité devers vous, si ce n'était point pour le lire ? Demanda le sire de Villebrême.
Pour le porter au chancelier de mon maître, afin qu'il le scellât. Car le traité fut revêtu, cela je m'en souviens bien, du sceau de tous les pères, dont mon maître Philippe le Bel était, en tant que premier fils de la couronne.
Ceci est à noter, Tesson, dit Villebrême. Tous les pères ont apposé leur sceau. Sans même avoir lu la pièce, monseigneur, vous saviez bien que l'héritage d'Artois y était assuré au comte Philippe et à ses oires mâles.
Je l'ai ouï dire, répondit Bouville, et ne puis rien certifier d'autre.
La manière qu'avait ce jeune Villebrême de lui faire déclarer plus qu'il ne voulait l'irritait un peu. Il n'était pas né, ce garçon, et son père était encore bien loin de l'engendrer quand s'étaient passés les faits sur lesquels il enquêtait. Les voilà bien, ces petits officiers royaux, tout gonflés de leur charge neuve. Un jour, ils se retrouveraient eux aussi, vieux et seuls, contre l'espalier de leur jardin. Oui. Bouville se souvenait de ces choses inscrites au traité de mariage de Philippe d'Artois. Mais quand en avait-il entendu parler pour la première fois ? Au moment du mariage même, en 1282, ou bien quand le comte Philippe était mort, en 98, de ses blessures reçues à la bataille de Furnes ? Ou bien encore, après que le vieux comte Robert II eut été tué à la bataille de Courtrai, en 1302, ayant survécu de 4 ans à son fils, d'où le procès entre sa fille Mao et son petit-fils Robert III, l'actuel ? On demandait à Bouville de fixer un souvenir qui pouvait se placer à un quelconque moment sur une période de plus de 20 ans. Et ce n'était pas seulement le notaire Tesson et ce sire de Villebrême qui étaient venus lui presser la cervelle, mais Monseigneur Robert d'Artois lui-même, plein de courtoisie et de révérence, il fallait en convenir, mais tout de même parlant fort, s'agitant beaucoup et écrasant les fleurs du jardin sous ses bottes. « Alors, rectifions de la sorte, » dit le notaire ayant corrigé son texte. Et qu'il eût ledit traité entre les mains, mais ne le tint que peu, et aussi se souvient qu'il fut scellé du sceau des 12 pères, et encore que le comte de Bouville nous a déclaré avoir ouï dire alors qu'audit traité était précisément inscrit que la comté d'Artois. Bouville approuva de la tête. Il aurait préféré qu'on supprimât ce petit alors, ouï dire alors, que le notaire avait introduit dans sa phrase. Mais il était fatigué de lutter. Et un mot a-t-il tellement d'importance ?
Irait à ses oires mâles issus du dit mariage, et encore nous a certifié que le traité fut bien placé au registre de la cour, et encore tient pour vrai qu'il fut soustrait plus tard au dit registre par manœuvre de malice et sur l'ordre de Madame Mao d'Artois.
« Je n'ai point dit cela non plus, » fit Bouville.
« Vous ne l'avez point dit sous cette forme, monseigneur, » répondit Villebrême, « mais cela ressort de votre déposition. »
Reprenons ce que vous avez certifié. D'abord, que le traité de mariage a existé. Secondement, que vous l'avez vu. Troisièmement, qu'il fut mis au registre,
revêtu du sceau des pères.
Villebrême échangea un nouveau regard lassé avec le notaire.
Revêtu du sceau des pères, répéta-t-il pour faire plaisir aux témoins. Vous certifiez encore que ce traité excluait de l'héritage la comtesse Mao, et qu'il disparut des registres de sorte qu'il ne put être produit au procès qu'intenta Monseigneur Robert d'Artois à sa tante. Qui pensez-vous donc qu'il l'ait fait soustraire ? Croyez-vous que ce soit le roi Philippe le Bel qui en ait donné l'ordre ? La question était perfide. N'avait-on pas dit bien souvent que Philippe le Bel, pour avantager la belle-mère de ses 2 derniers fils, avait rendu en sa faveur un jugement de complaisance ? Bientôt, on irait prétendre que c'était Bouville lui-même qui avait été chargé de faire disparaître les pièces.
« Ne mêlez pas, messire, la mémoire du roi le Bel, mon maître, à un acte si vilain, » répondit-il avec dignité.
Par-dessus les toises et les frondaisons,
Les cloches sonnèrent au clocher de Saint-Germain-des-Prés. Bouville pensa que c'était l'heure à laquelle on lui apportait une écuelle de fromage caillé. Son physicien lui avait recommandé d'en prendre 3 fois par jour.
« Donc, reprit Wilbrem, il faut bien que le traité ait été enlevé à l'insu du roi. Et qui pouvait avoir intérêt à ce qu'il fût dérobé, sinon la comtesse Mao ?»
Le jeune commissaire tapota du bout des doigts la pierre du banc. Il n'était pas mécontent de sa démonstration.
« Oh, certes !» fit Bouville. « Mao est capable de tout !»
Sur ce point, sa conviction ne datait pas de la veille. Il savait Mao coupable de 2 crimes, et bien autrement grave qu'un vol de parchemin. Elle avait tué, assurément, le roi Louis X. Elle avait tué, sous ses yeux à lui, Bouville, un enfant de 5 jours qu'elle pensait être le petit roi posthume, et toujours pour garder sa comté d'Artois. Vraiment, c'était un souci bien sot que de se faire à son sujet scrupule d'exactitude. Elle avait volé le contrat de mariage de son frère, certainement, ce contrat dont elle avait le front de nier et par serment qu'il eût jamais existé. L'horrible femme. À cause d'elle, le véritable héritier des rois de France grandissait loin de son royaume, dans une petite ville d'Italie, chez un marchand lombard qui le croyait son fils. Allons. Il ne fallait pas penser à cela. Bouville avait naguère versé ce secret qu'il était seul à détenir dans l'oreille papale. Ne plus y penser, jamais, de peur d'être tenté d'en parler. Et puis, que ces enquêteurs s'en aillent au plus vite.
« Vous avez raison, laissez ce que vous avez écrit, dit-il. Où dois-je signer ?»
Le notaire tendit la plume à Bouville. Celui-ci distinguait mal le bord du papier. Son paraphe sortit un peu de la feuille. On l'entendit encore marmonner.
« Dieu finira bien par lui faire expier ses fautes avant de la remettre à la garde du diable. »
Un peu de poudre asséchée fut répandue sur sa signature. Le notaire replaça feuilles et écritoires dans son sac de cuir noir. Puis les 2 enquêteurs se levèrent pour prendre congé. Bouville les salua de la main sans se lever. Il n'avait pas fait 5 pas qu'il n'était plus pour lui que 2 ombres vagues se dissolvant derrière le mur d'eau. L'ancien chambellan agita une clochette posée à côté de lui pour réclamer son lait caillé. Diverses pensées le tracassaient. Comment son maître vénéré, le roi Philippe le Bel, au rendu de son jugement pour l'Artois, avait-il pu oublier l'acte qu'il avait auparavant ratifié? Comment ne s'était-il pas soucié de la disparition de cette pièce? Ah, les meilleurs rois ne commettent pas seulement de belles actions. Bouville se disait aussi qu'il irait un prochain jour faire visite au banquier Ptolomée afin de s'informer de Guccio Baglioni et de l'enfant, mais sans insister comme par une politesse de conversation. Le vieux Ptolomée ne bougeait presque plus de son lit. C'était les jambes chez lui qui étaient prises. La vie s'en va ainsi. Pour l'un, c'est l'oreille qui se ferme, pour l'autre, les yeux qui s'éteignent, ou les membres qui cessent de se mouvoir. On compte le passé en années, mais on n'ose plus penser l'avenir qu'en mois ou en semaines.
Vivrai-je encore quand ce fruit sera mûr, et le pourrai-je cueillir ?
Songeait le comte de Bouville en regardant la poire de l'espalier. Messire Pierre de Machaut, seigneur de Montargis, était un homme qui ne pardonnait jamais les injures, même aux morts. Le trépas de ses ennemis ne suffisait pas à apaiser ses ressentiments. Son père, pourvu d'un haut emploi au temps du roi de fer, en avait été destitué par Enguerrand de Marigny, et la fortune de la famille en avait gravement souffert. La chute du tout-puissant Enguerrand avait été pour Pierre de Machaut une revanche personnelle. Le grand jour de sa vie restait celui où, comme écuyer du roi Louis Hutin, il avait conduit Monseigneur de Marigny au gibet. Conduit, c'était manière de dire. Accompagné, plutôt, et pas au premier rang, mais parmi nombre de dignitaires plus importants que lui. Toutefois, les années passant, ces seigneurs l'un après l'autre étaient décédés, ce qui permettait à messire Pierre de Machaut, chaque fois qu'il racontait ce trajet mémorable, de s'avancer d'une place dans la hiérarchie du cortège. D'abord, il s'était contenté d'avoir défié des yeux messire Enguerrand, debout sur sa charrette, et de lui avoir bien prouvé par son visage que quiconque nuisait au Machaut, si élevé fût-il, bientôt en recueillait malheur. Ensuite, le souvenir embellissant les choses, il assurait que Marigny, pendant cette ultime promenade, non seulement l'avait reconnu, mais encore s'était adressé à lui en disant tristement
« Ah, c'est vous, Machaut. Vous triomphez à présent. Je vous ai nui, je m'en repens. »
Aujourd'hui, après 14 ans écoulés, il semblait qu'Enguerrand de Marigny, allant à son supplice, n'ait eu de parole que pour Pierre de Machaut, et de la prison jusqu'à Montfaucon, ne lui eût rien scellé de l'état de sa conscience. Petit, les sourcils gris joints au-dessus du nez, la jambe raidie par une mauvaise chute en tournoi, Pierre de Machaut continuait de faire soigneusement graisser des cuirasses qu'il n'endosserait plus jamais. Il était vaniteux autant que rancunier, et Robert d'Artois le savait bien, qui avait pris la peine d'aller le visiter 2 fois, pour qu'il lui parlât justement de cette fameuse chevauchée auprès de la charrette de Messire Enguerrand.
« Eh bien, comptez donc tout cela aux commissaires du roi qui viendront vous demander témoignage sur mon affaire, » avait dit Robert. « Les avis d'un homme aussi preux que vous l'êtes sont choses d'importance. Vous éclairerez le roi et vous acquérerez grande gratitude de sa part comme de la mienne. Vous a-t-on jamais pensionné pour les services que votre père et vous-même rendit au royaume ?»«
Jamais !»
Quelle injustice ! Alors que tant d'intrigants, de bourgeois, de parvenus s'étaient fait mettre pendant les derniers règnes sur la liste des dons de la cour, comment avait-on pu oublier un homme d'aussi grande vertu que Messire de Machaut ? Oubli volontaire, à n'en pas douter, et inspiré par la comtesse Mao, qui avait toujours eu partie liée avec Enguerrand de Marigny. Robert d'Artois veillerait personnellement à ce que cette iniquité fût réparée. Si bien que lorsque le chevalier de Villebrême, toujours flanqué du notaire Tesson, se présenta chez l'ancien écuyer, celui-ci ne mit pas moins de zèle à répondre aux questions que le commissaire allait poser. L'interrogatoire eut lieu dans un jardin voisin, comme c'était l'usage de justice, les dépositions devant être faites en lieu ouvert et à l'air libre. À entendre Pierre de Machaut, on eût cru que l'exécution de Marigny s'était passée l'avant-veille.
« Ainsi, disait Villebrême, vous étiez, messire, devant la charrette quand le sire Enguerrand en fut descendu auprès du gibet. »«
Je suis monté dans la charrette, répondit Machaut, et d'ordre du roi Louis X, je demandais au condamné de quelle faute de gouvernement il voulait s'accuser avant de comparaître devant Dieu. »
En réalité, c'était Thomas de Marfontaine qui avait été chargé de cet office, mais Thomas de Marfontaine était mort depuis longtemps.
Et Marigny continua de se donner pour innocent de toutes les fautes qui lui avaient été reprochées pendant son procès. Il reconnut néanmoins, ce sont ses propres paroles où l'on retrouve bien sa fourberie, avoir pour des causes justes accompli des actions injustes. Alors je lui demandai quelles étaient ses actions, et il m'en cita plusieurs, comme d'avoir destitué mon père, le sire de Montargis, et aussi d'avoir soustrait aux registres royaux le traité de mariage du feu comte d'Artois afin de servir l'intérêt de Madame Mao et de ses filles, les brues du roi.
Ah ! C'est donc lui qui fit accomplir ce retrait.
Il s'en est accusé ! S'écria Villebrême.
Voilà qui est important. Notez, Tesson, notez.
Le notaire n'avait pas besoin de cet encouragement et grattait son papier avec entrain. Le bon témoin que ce sire de Machaut.
Et savez-vous, messire, demanda Tesson, prenant à son tour la parole, si le sire Enguerrand fut payé pour cette forfaiture?
Machaut eut une légère hésitation et ses sourcils gris se froncèrent.
Certes, il le fut, répondit-il, car je lui demandais encore s'il était vrai qu'il eût reçu, comme on le disait, 40 000 livres de Madame Mao pour lui faire gagner son procès devant le roi. Et Enguerrand baissa la tête en signe d'assentiment et de grande honte, et il me répondit « Messire de Machaut, priez Dieu pour moi, ce qui était bien un aveu. »
Et Pierre de Machaut croisa les bras d'un air de mépris triomphant.
« À présent, tout est bien clair, » dit Villebrême avec satisfaction.
Le notaire transcrivait les derniers points de la déposition.
« Avez-vous entendu déjà beaucoup de témoins ?» demanda l'ancien écuyer.
« 14, messire, et il nous en reste le double à entendre, » dit Villebrême. « Mais nous sommes 8 commissaires et 2 notaires à nous partager la besogne. »